est avec vous, Claire Flochel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. C'était le grand favori et c'est bien lui au final, Benjamin Griveaux, qui sera candidat de La République En Marche pour la mairie de Paris. La Commission nationale d'investiture a préféré l'ancien porte-parole du gouvernement aux députés Cédric Villani et Hugues Ranson. Première parole de candidat, ma mission maintenant c'est de rassembler. Pas si facile, nous dira Stéphane Robert.
Dans votre journal également, Claire Flochel, François de Rugy peut-il rester au gouvernement? L'ancien président de l'Assemblée nationale dont Mediapart dévoile les dîners dispendieux organisés aux frais de l'État.
On y revient dans ce journal. Des féminicides au sein des couples. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé hier soir son rapport 2018 des morts violentes où l'on apprend que 121 femmes ont été tuées par leur conjoint l'année dernière. Aux États-Unis, l'ambassadeur britannique Kim Darroch démissionne suite à la divulgation de notes diplomatiques pas vraiment sympathiques à l'égard de Donald Trump. Une fuite politique selon l'ancien ambassadeur britannique en France, vous l'entendrez. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant sur l'enquête de l'attentat de Nice à 3 jours du macabre anniversaire. Cette dernière touche à sa fin. Le 14 juillet 2016, Mohamed Louaij Boulel, un ancien livreur tunisien, lançait son camion sur la foule après le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. 86 morts et des centaines de blessés. L'auteur des faits a été abattu, mais un procès est néanmoins prévu pour la fin de l'année prochaine. Florence Turme.
À ce jour, 8 personnes restent mises en examen pour complicité, dont 5 toujours en détention. L'un des 9 suspects s'est suicidé en prison. Mais l'Association française des victimes du terrorisme vient d'adresser une nouvelle demande d'acte au juge d'instruction. Elle leur demande d'entendre Adrien Guial, qui a revendiqué l'attentat 2 jours après le drame depuis la Syrie, où il a été capturé le 16 mai 2018. Une demande d'audition sur laquelle insiste aussi Christian Estrosi, le maire de Nice.
Je souhaite que vraiment Guial soit interrogé, c'est essentiel. Il se trouve qu'il est détenu par des forces kurdes dans le nord-est syrien. Des forces kurdes qui sont d'ailleurs organisées, qui ont un procureur, une organisation judiciaire, qui, semble-t-il, est prête à collaborer avec les magistrats français.
Cette demande d'audition s'appuie sur une note de synthèse réalisée par le Centre d'analyse du terrorisme présidé par Jean-Charles Brizard, récemment nommé conseiller spécial de la mairie de Nice et depuis hier en Syrie. Il souligne l'implication des structures médiatiques du groupe État islamique et des opérations extérieures. À ce stade, les enquêteurs considéraient qu'il s'agissait d'une revendication d'opportunité et non pas d'une opération concertée, même si le mode opératoire est celui préconisé par Daesh. Pour Gérard Chemla, l'avocat de plusieurs victimes, il convient de rester prudent compte tenu de la personnalité du terroriste.
Depuis l'origine, on a plutôt la sensation d'un homme seul, hein, en tout cas c'est comme ça que les juges nous l'ont présenté, quelqu'un qui se radicalise tout seul, qui agit pour des motifs qui ne sont pas simplement des motifs religieux. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les choses gore et assez abominables. On n'a pas jusqu'à maintenant imaginé, parce qu'il n'y a pas d'éléments objectifs, qui puisse être relié à un mouvement terroriste.
D'autres investigations ont également été lancées en Tunisie sur l'état de santé mentale du tueur et ses antécédents psychiatriques.
Florence Turme. C'est donc Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement, qui représentera La République En Marche dans la capitale pour les municipales l'an prochain. À l'issue d'un combat à Troyes où les coups ont parfois été rudes, la mairie de Paris, on le sait, c'est l'un des plus gros enjeux politiques pour les macronistes face à Anne Hidalgo. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
La première urgence donc pour Benjamin Griveaux, c'est de rassembler son camp. Mais Stéphane, il n'apparaît pas comme incontestable, notamment aux yeux de Cédric Villani.
Oui, Cédric Villani apparemment ne digère pas sa défaite. Dans un message plein de sous-entendus, hier, il déclarait sur Twitter « J'aurai prochainement l'occasion de m'exprimer sur les perspectives qu'il convient à présent d'ouvrir. Pas un mot de félicitation pour le vainqueur, encore moins l'assurance de son soutien pour la campagne à venir. » Malgré ça, le candidat officiellement investi, Benjamin Griveaux, essayait de se montrer compréhensif hier soir.
Quand vous avez mené un combat avec fougue, avec détermination comme l'a fait Cédric ces dernières semaines, il est normal d'avoir un temps de déception. Je le respecte absolument.
Du côté de la commission d'investiture, le ton était très différent. Il va falloir que Villani rentre dans le rang, expliquait hier soir en substance le co-président de cette commission, Alain Richard. Sinon, La République En Marche engagera une procédure d'exclusion.
Il nous avait dit, les yeux dans les yeux, qu'il serait solidaire de la décision et qu'il participerait à la campagne commune. Donc je pense qu'il va se reprendre et je pense qu'il faut qu'il soit attentif à l'effervescence de son entourage.
Le problème dans cette affaire, commentait hier soir un conseiller à l'Élysée, est qu'Emmanuel Macron a laissé les choses s'enliser en faisant durer le processus, parce que c'est évidemment lui qui a donné son feu vert au bout du compte, mais en tergiversant, en laissant traîner les choses, le chef de l'État a d'un côté fait naître des espoirs chez Cédric Villani, qui a maintenant du mal à reconnaître sa défaite et à stopper son élan, et d'un autre côté, il a fragilisé la légitimité du vainqueur Benjamin Griveaux, donnant le sentiment qu'il n'est pas le meilleur candidat qui soit, mais qu'on le choisit faute de mieux. Le résultat est qu'avant même de lancer sa campagne, Benjamin Griveaux apparaît avoir déjà du mal à rassembler son propre camp.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. François de Rugy, lui, pourrait finalement s'expliquer devant des députés de La République En Marche. On l'apprend ce matin, certains marcheurs veulent convoquer le ministre de la Transition écologique devant le bureau de l'Assemblée nationale ou devant la conférence des présidents. Hier, Mediapart révélait que François de Rugy aurait organisé plusieurs dîners fastueux avec du homard et du champagne, tout cela aux frais du contribuable. Le ministre s'est justifié cette nuit sur Facebook. Lui n'y voit qu'un travail de représentation, ni plus ni moins. Il conserve d'ailleurs la confiance d'Emmanuel Macron. Pour preuve, Yael Gauz, la porte-parole du gouvernement, était même à ses côtés pour le dire hier à l'issue du Conseil des ministres.
Ses collègues l'ont trouvé anxieux hier midi à la table du Conseil des ministres, mais ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe n'ont fait allusion aux polémiques sur François de Rugy. Le ministre a même reçu de leur part des SMS de soutien. La priorité, c'est l'écologie, pas le recyclage des ministres, plaisante un conseiller. Bien sûr qu'il a fait preuve de maladresse, soupire un ministre. Pas une affaire d'État, juste un nouveau petit Benalla d'été, les gilets jaunes vont adorer. Mais ces dîners sont-ils répréhensibles par la loi? Qu'est-ce qu'un dîner formel ou informel? Édouard Philippe a fait passer le message à ses équipes. Il faut être carré dans la vie politique. Des règles ont-elles été enfreintes? La réponse est non. Emmanuel Macron, quand il était lui-même ministre à Bercy, faisait jusqu'à 2 dîners par soir pour étoffer son réseau. Un président bienveillant avec les ministres les plus exposés, avec François de Rugy donc, pièce maîtresse de son virage écolo, avec Agnès Buzyn, confortée dans son combat pour des remboursements et l'homéopathie, avec Jean-Michel Blanquer enfin, félicité pour sa fermeté face aux enseignants grévistes. Emmanuel Macron soigne son équipe, il n'a pas besoin de fusibles, mais de soldats pour son acte 2.
Et à défaut de remettre en question son propre poste, François de Rugy lui a poussé à la démission sa directrice de cabinet, Nicole Klein, elle-même épinglée par Mediapart pour avoir conservé pendant 12 ans un logement social à Paris sans l'occuper. Selon Ouest France ce matin, celle qui fut aussi préfète des Pays de la Loire a accepté de s'en aller.
On vous en parlait hier sur France Culture. L'homéopathie ne sera plus du tout prise en charge d'ici un an et demi. La ministre de la Santé, Claire Flochel, a tranché mardi.
Au motif que son efficacité n'est pas avérée, se pose alors désormais la question de la transmission de cette pratique enseignée dans de nombreuses facultés de France, comme à l'université Paris-Descartes. Son président a décidé de suspendre le diplôme universitaire en vue de sa suppression. Lisa Guyenne.
C'est par le biais d'un tweet quelques heures avant la décision de la ministre que Frédéric Dardel, le président de Paris Descartes, a fait cette annonce mardi. Un choix mûri depuis l'année dernière, explique-t-il.
Il y a un an, il y a eu la fameuse tribune des 124 médecins dénonçant l'efficacité de l'homéopathie. Et j'ai fait partie des gens qui ont exprimé leur soutien à ces 124 médecins. Et je me suis pris un coup de boomerang parce que les gens m'ont dit « Mais vous dites ça, mais en même temps, dans votre université, vous avez un diplôme d'homéopathie, ce que j'avais pas repéré. » Et donc, ils m'ont dit « Quand est-ce que vous fermez ?»
L'abandon complet du diplôme sera acté en septembre par la commission formation de l'université, la seule habilitée à faire ce choix. La formation, elle, devait commencer en janvier. Un diplôme d'un an avec une centaine d'heures de cours dispensées à des professionnels, des pharmaciens déjà en exercice qui souhaitaient approfondir leurs connaissances en homéopathie. Mais ce n'est pas à l'université d'assurer ce rôle, selon Frédéric Dardel.
C'est une question de conviction personnelle. Moi, je suis un scientifique, je suis ni médecin ni pharmacien. Je ne touche pas d'argent ni de Sanofi ni de Boiron. Moi, ma position, c'est une pratique qui n'est pas scientifiquement prouvée. Dans ces conditions-là, est-ce que c'est légitime qu'une grande université qui est censée former les gens à la démarche scientifique, à l'esprit critique, délivre un diplôme qui donne une légitimité scientifique à quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas fondé? Si ça marche, je suis prêt à l'accepter. Si ça marche pas, on est dans le domaine de la croyance. Et à mon avis, c'est pas à l'université de promouvoir la croyance.
En espérant que d'autres présidents d'université lui emboîtent le pas, Frédéric Dardel promet d'ores et déjà un grand ménage de rentrée. En septembre, Paris Descartes passera en revue toutes ses formations en santé pour s'assurer de leur légitimité.
Reportage signé Lisa Guyenne. L'an dernier, en moyenne, tous les 3 jours, une femme a été tuée en France par son compagnon. 121 féminicides recensés, 28 hommes ont également été tués.
tués. Ces chiffres officiels ont été rendus publics hier, 3 jours après l'annonce d'un Grenelle des violences conjugales pour enrayer ce fléau. Il se déroulera dès le 3 septembre. Désormais, Emmanuel Leclerc, les autorités délivrent des données plus fines sur les circonstances. Elles regardent s'il n'y avait pas déjà eu des alertes.
Le rapport annuel rendu public par la police et la gendarmerie permet de voir qu'un certain nombre de morts violentes au sein des couples avaient fait l'objet d'antécédents de violence. Michel Laveau est le directeur du service de communication de la police nationale.
On cherche les antécédents, soit parce que l'enquête découvre que l'auteur avait déjà été condamné, l'auteur ou alors avait déjà été interpellé, la victime avait déjà fait appel à son domicile à une unité de gendarmerie ou de police, donc on a ces éléments. On a aussi, parce que bien souvent il y a une libération de la parole après malheureusement les faits, et le cercle familial déclare dans l'enquête sur procès-verbal qu'il y a eu des faits antérieurs ou malheureusement aussi au gré des examens médicaux. Donc on a pour 2018 54 victimes qui avaient été l'objet de violences.
L'objectif du ministère de l'Intérieur est donc de permettre d'améliorer encore la libération de la parole sur les violences au sein des cercles familiaux avec un meilleur accueil dans les commissariats ou les gendarmeries, plus de psychologues et d'assistantes sociales en partenariat avec des associations. Il y a enfin les outils technologiques comme ces appareils qui sonnent quand l'un des conjoints reconnus violent s'approche à une certaine distance de son épouse ou de son ex-compagnon. Une mesure à l'image des bracelets électroniques encore au stade expérimental en France.
L'ambassadeur britannique aux États-Unis a finalement décidé hier de jeter l'éponge, de quitter ses fonctions. Les rapports secrets de Kim Darroch avaient été publiés samedi par la presse britannique. Il y qualifiait Donald Trump d'incompétent. L'affaire a fait grand bruit. Grosse tension diplomatique des deux côtés de l'Atlantique. Au Royaume-Uni, le camp de Boris Johnson a même été accusé d'avoir orchestré ses fuites pour discréditer son rival pour la succession de Theresa May, le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt. En tout cas, après cette démission, les diplomates britanniques sont sous le choc. Écoutez Peter Ricketts, ex-ambassadeur du Royaume-Uni en France.
C'est une très mauvaise journée pour la fonction publique britannique et aussi pour le pays tout entier. Ce qui s'est passé, c'est une fuite avec une motivation clairement politique, parce que un grand ambassadeur, serviteur de l'État depuis 40 ans, a été descendu dans une attaque politique qui fait partie, à mon avis, de la division et la discorde qui est notre vie politique au Royaume-Uni en ce moment. Et dans ce cas-ci, d'avoir des ambassadeurs qui ne peuvent pas avoir confiance que leur rapport confidentiel à leur capital soit protégé, là, c'est très, très dangereux.
Ça va devenir plus difficile d'être diplomate pour le Royaume-Uni dans les semaines, les mois à venir?
Pour le moment, oui. J'imagine que toutes mes ex-collègues sont maintenant très inquiets. Mais deux choses pourraient améliorer la situation. Une chose serait de trouver celui qui est responsable et de les poursuivre en justice. Et deuxièmement, de remplacer Kim Darroch à Washington avec un professionnel pour montrer que le système politique ici a toujours confiance dans la diplomatie et la fonction publique britannique. Si on peut faire ces deux choses-là, on peut au moins récupérer un peu des dégâts qu'on a souffert ces derniers jours.
Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France, interrogé par Franck Madvon. Donald Trump demande une enquête sur la taxe GAFA bientôt mise en place en France. Le projet de loi passe devant le Sénat aujourd'hui pour être adopté définitivement. Les États-Unis craignent que cette loi vise injustement les entreprises américaines comme Facebook ou Google. On y revient dans le journal de 9h. Environ 200 corps découverts dans un nouveau charnier à Raqqa, en Syrie. Au début de l'année déjà, ce sont 3500 corps qui avaient été retrouvés dans un autre charnier, alors que 8 autres fosses communes ont déjà été recensées autour de la ville. Raqqa a été la capitale du groupe État islamique entre 2014 et 2017. Après le retrait des djihadistes, des découvertes macabres similaires avaient été faites en Irak. Aurélien Colli.
Dans le nord-est de la Syrie, une dizaine de charniers découverts compteraient quelques 5000 victimes, chiffre à multiplier par 2 au Kurdistan irakien selon Mohamed Hissan, expert en recherche médico-légale et génocide.
Based on the soil, we can predict.
En observant la terre, on peut prédire la date du charnier, les vêtements des victimes donnent leur origine, l'analyse des corps dit comment ils ont été tués, explique ce spécialiste, en ajoutant que l'identification précise est bien plus difficile.
We do inventory for all the bodies.
On fait un inventaire pour chaque corps, les membres, les vêtements, tout ce qu'on peut récolter pour de futurs tests ADN, pour avoir des dossiers précis, souligne l'expert, ancien ministre du gouvernement régional kurde, qui a créé une commission d'enquête sur les crimes de Daesh dès 2014, après le massacre de la minorité yézidi. Elle a recensé la quasi-totalité des charniers et même identifié certains responsables. Tout ça peut constituer des preuves facilitant des poursuites, mais il y a des obstacles, déplore Ayman Mustafa, le juge qui dirige cette commission, en regrettant que son pays, l'Irak, n'ait ni adhéré à la Cour pénale internationale, ni adopté de législation pour ces crimes de masse, et qu'à Bagdad, on se contente donc de procès pour terrorisme.
Aurélien Colli, correspondant de France Culture au Liban. On termine par la météo de ce jeudi. Il va pleuvoir sur le nord et le nord-est de la France. Le ciel est variable sur la façade atlantique et le centre. Il fait beau dans le sud. Les températures sont comprises entre 14 et 24 degrés ce matin. 8h15 sur France Culture. C'est à vous, Olivia Jasbert, pour la suite des matins d'été.